Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Shvurot, page 16, Daf Tetzain. Bonne écoute et bon limoud.
Alpina vine echelet, valpina vine israfet. C'est sur l'ordre du prophète que l'un des pains est consommé, et c'est sur l'ordre du prophète que l'autre pain est brûlé. Autrement dit, il s'agit d'une dérogation spéciale qui a été transmise au prophète Haggai Zechariah ou Malachi pour l'inauguration de la ville de Yerushalayim. C'est pour cela donc que l'un des pains était consommé selon les directives du prophète et l'autre était brûlé. Nous avons fini ici le shiur de Shvuot Daf Tetvav. Nous commençons le shiur de Masechet Shvuot Daf Tetzain à la deuxième ligne du haut de la page. Nous avons vu jusqu'à présent que pour sanctifier la ville de Yerushalayim ou l'enceinte du Beth Amikdash ou un supplément sur ceci, il fallait le faire avec la présence du roi, du prophète de l'époque, du Kohen Gadol qui portait le Choshen, dans lequel était inséré un morceau de parchemin sur lequel était inscrit le nom divin. Et c'est lui, donc le nom divin, qui donnait les réponses posées au Kohen Gadol par l'intermédiaire des pierres du Choshen, dont les lettres s'éclairaient selon la réponse. Il fallait organiser une procession qui faisait le tour de l'endroit en question, en portant des pains chametz provenant d'un korban toda, et chanter des cantiques spéciaux, comme nous l'avons vu dans le daf précédent. Alors, la Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Kol shelo naasit bechol elu » Tout supplément de l'enceinte du Beth Amikdash ou de la ville de Yerushalayim qui n'ont pas été sanctifiés par les actions que nous avons mentionnées, cette enceinte ne sera pas sanctifiée. Itmar, il a été enseigné une discussion à ce sujet. Rav Huna Amar bechol elutnan, dans la Mishnah, il est enseigné avec toutes ses actions. Autrement dit, il fallait que toutes ses actions soient faites pour que l'enceinte en question soit sanctifiée. Rav Nachman Amar be'achat mikol elutnan. Rav Nachman dit que ce que la Mishnah nous enseigne, c'est avec une de ses actions. Autrement dit, l'enceinte sanctifiée avec l'une de ses actions mentionnées dans la Mishnah sera considérée comme étant sanctifiée. Donc par exemple, si seul le roi ou seule la procession qui portait les pains d'un korban toda a eu lieu, l'enceinte en question sera sanctifiée. La Gemara précise, Rav Huna Amar bechol elutnan. La Mishnah nous enseigne avec toutes ses actions, autrement dit, il fallait que toutes ses actions soient faites pour que l'enceinte soit sanctifiée. Kassavar, il pense, que Dusha Rishona Kidsha Leshata, la première sanctification de la ville de Yerushalayim et du Beth Amikdash, les ont sanctifiées à l'époque où cette sanctification a eu lieu, Vekidsha Leati de Lavo, et cette sanctification est restée pour l'avenir, c'est-à-dire même après la destruction du Beth Amikdash, la sanctification du Beth Amikdash et de la ville de Yerushalayim n'ont pas été annulées. Be'Ezra, et ce que Ezra a fait avec Nehemia lorsqu'ils ont reconstruit le deuxième Beth Amikdash, Zecher Be'almaoud Abad, il a simplement fait cette cérémonie en rappel de la cérémonie qui doit avoir lieu pour sanctifier la ville de Yerushalayim. Donc, même si au temps de Ezra, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas non plus le parchemin inséré dans le Choshen, et donc finalement, toutes les actions n'ont pas eu lieu, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, la ville de Yerushalayim et le Beth Amikdash sont restés sacrés. Rav Nachman Amar, tandis que Rav Nachman dit, Be'achat mikol elutnan, que ce que la Mishnah nous enseigne, que toute enceinte qui n'a pas été sanctifiée avec une des actions mentionnées par la Mishnah, cet endroit n'est pas sanctifié. Autrement dit, même si une seule des actions a eu lieu, cela est suffisant pour que l'enceinte en question soit sanctifiée. Kassavar, il pense, Kdusha Rishona Kidsha Leshata, la première sanctification de la ville d'Yerushalayim et de Beth Amikdash, les ont sanctifiées à l'époque où la sanctification a eu lieu, Velo Kidsha Leati de Lavo, mais cette sanctification n'est pas restée pour le futur. Autrement dit, à la destruction du Beth Amikdash et de la ville de Yerushalayim, la sanctification a été annulée. De Ezra Kiddush et Kaddish, et lorsqu'Ezra et Nehemia ont reconstruit la ville de Yerushalayim et le Beth Amikdash, ils les ont à nouveau sanctifiés. Afalgav de Lohabu Orim Betumim, bien qu'à l'époque, il n'y avait pas le Orim Betumim, c'est-à-dire le parchemin inséré dans le Choshen sur lequel était inscrit le nom divin, et d'ailleurs aussi, il n'y avait pas de roi, quand même, la sanctification de la ville de Yerushalayim et du Beth Amikdash ont pris effet. Apparemment donc, une seule action suffit pour les sanctifier. Et Tivé, Rava le Rav Nachman, Rava a opposé à Rav Nachman notre Mishnah qui dit « Kol shelo nasit becholelu » Toute enceinte qui n'a pas été sanctifiée avec toutes ses actions, cette enceinte ne sera pas sanctifiée. Nous voyons donc clairement dans la Mishnah que toutes ses actions doivent avoir eu lieu pour que la sanctification prenne effet. L'agma répond, Tané, il faut enseigner, c'est-à-dire il faut corriger dans la Mishnah, et lire ainsi, Be'achat Mikolelu, toute enceinte qui n'a pas été sanctifiée avec une de ses actions, cette enceinte ne sera pas sanctifiée. L'agma a dit, Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta. Abba Shaul Omer, Shne Bitzin Hayu Behar Amishra, il y avait deux marais dans le Harazetim, Tartona Veliona, il y avait le marais inférieur et le marais supérieur. Tartona Nitkalcha Becholelu, le marais inférieur a été sanctifié avec toutes ces actions mentionnées par la Mishnah, Eliona, Lonit Kacha Becholelu, tandis que le marais supérieur n'a pas été sanctifié avec toutes ces actions. Et là, Beolegola, en effet, ce marais supérieur n'a été sanctifié que par ceux qui sont remontés de l'exil, Shelo Bemeler, sans roi, Beshelo Beurim Betumim, et sans le parchemin sur lequel était inscrit le nom divin qui était inséré dans le Choshen. Autrement dit, ce marais n'a été sanctifié que lorsque le Beit HaMikdash a été construit une seconde fois. Tartona Shehaitak Dushatagmura, le marais inférieur dont la sanctification était pleine, c'est-à-dire dont la sanctification a été faite correctement, Ame Haaretz Nichnasim Lesham, les ignorants rentraient là-bas Vohlin Sham Kochim Kalim et mangeaient les sacrifices d'une sainteté légère, comme la viande provenant du Korban Shlamim qui peut se manger dans toute la ville de Yerushalayim, Aval Loma Sercheni, mais ils ne mangeaient pas là-bas le Maaser Sheni, qui est la seconde dîme prélevée sur la récolte et qui doit être consommée dans la ville de Yerushalayim. Les ignorants ne mangeaient pas cette seconde dîme, donc dans le marais inférieur. Plutôt, ils faisaient l'effort de rentrer dans la ville elle-même pour consommer ce Maaser Sheni. Et cela parce qu'ils voulaient accomplir ce commandement dans sa meilleure forme, parce qu'ils avaient entendu le discours qui interprète le pasouk Aser te Aser, prélève la dîme, qui est interprété comme suit, prélève la dîme afin que tu t'enrichisses. Et en plus, il devait faire la confession décrite dans Dvarim Kavav concernant les prélèvements de la dîme, la quatrième et la septième année de la Shemitah. Dans cette confession, il devait dire, j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Il voulait donc accomplir cette mitzvah correctement. Et c'est pour cela qu'il consommait le Maaser Sheni uniquement dans la ville elle-même. Tandis que pour la viande du Korban, il ne se sentait pas obligé de faire cet effort. Vechaverim, tandis que ceux qui sont scrupuleux dans l'observance des mitzvot, Ochlim Cham Kodshim Kalim, ils mangeaient là-bas, dans ce marais inférieur, la viande provenant du Korban, comme le Korban Shlamim qui pouvait se manger dans toute la ville, ou Maaser Sheni, et ils consommaient là-bas aussi le Maaser Sheni, parce que cette partie de la ville était considérée comme étant sanctifiée, elle faisait partie de la ville de Yerushalayim. Eliona, le marais inférieur, Shelo Haitak Dushata Gmura, dont la sanctification n'était pas pleine, c'est-à-dire dont la sanctification n'a pas eu lieu correctement. Ame haaret hayun nechnasim sham, les ignorants rentraient là-bas vohlim sham kochim kalim et mangeaient là-bas la viande du korban shlamim qu'on pouvait manger dans toute la ville. Ils considéraient cette partie comme faisant partie de la ville et ils ne faisaient pas l'effort de chercher un endroit qui soit considéré comme faisant réellement partie de la ville de Yerushalayim, parce qu'ils n'acceptaient pas ce que les chachamim disaient, que cette partie de la ville n'a pas été sanctifiée correctement. Aval lo maaser sheni, mais ils ne consommaient pas là-bas le maaser sheni pour les raisons que nous avons dit plus haut. Vechaverim, tandis que ceux qui sont scrupuleux dans l'observance des mitzvot, enochlim sham, ne consommaient là-bas lo kochim kalim, ni la viande provenant d'un korban dont la sanctification est légère, velo maaser sheni, et ni le maaser sheni. Alagmar demande, umi pnema lo kitchua, et pourquoi ne l'ont-ils pas sanctifié? Chez en mosifim alayir, parce qu'on n'ajoute pas sur la ville vers l'Azaroth, et ni sur l'enceinte du Beit HaMikdash, et la Bemeler uniquement avec la présence du roi, Venavi et le prophète, Vorim Betumim, et avec la présence du Kohen Gadol qui porte le Choshen dans lequel était inséré le parchemin sur lequel était inscrit le nom divin, ou Besanedrin Shel Ayin Alef, avec la présence du tribunal suprême composé de 71 membres, ou Beshne Todot, et avec une procession dans laquelle on portait deux pains provenant du Korban Toda, ou Beshir, et avec des chants. En la Breita demande Velama Kitchua, et pourquoi ils l'ont quand même sanctifié? La Gemara demande immédiatement Lama Kitchua, est-ce que la Breita dit pourquoi l'ont-ils sanctifié? Ha Amart lo Kitchua, pourtant tu as dit plus haut que cette partie n'a pas été sanctifiée. En la Gemara corrige, et là plutôt c'est ainsi qu'il faut lire Lama Ichnisua, pourquoi ont-ils fait rentrer ce marais supérieur et l'ont inclus dans la ville? La Breita répond, Mipnesh et Tourpa chez le Rushalaim Haïta, parce que cet endroit était le point de faiblesse de la ville d'Yerushalayim, Venochahi Likavesh Misham, il était facile de la conquérir de là-bas. Ils ont donc agrandi la ville d'Yerushalayim en y incluant aussi le marais supérieur, rendant ainsi la ville d'Yerushalayim plus difficile à conquérir. Finalement, nous voyons dans cette Braïta, Premièrement, qu'il fallait que toutes ces actions aient lieu pour que la sanctification soit correcte. Et deuxièmement, que la première sanctification au temps du premier Beth Amikdash ne s'est pas annulée à la destruction du Beth Amikdash. La Gemara répond, Tanaïhi, ce sujet dépend d'une machloquette de Tanaïm, de Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une breita, à Marabil Yezer. Shamati, j'ai entendu que, Kshehayu Bonim Behechal, lorsqu'ils construisaient le Echal, le sanctuaire, Asu Klaim Lahechal, ils ont étendu des tentures à l'emplacement du sanctuaire, ou Klaim Lahazaroth, et aussi ils ont étendu des tentures à l'emplacement des murs de l'enceinte du Beth Amikdash. Et là, Shebahechal Bonim Mibachut, la seule différence qu'il y avait, c'est que le sanctuaire, on le construisait de l'extérieur, c'est-à-dire les tentures étaient étendues à la limite intérieure de ces murailles, ou Be'azaroth Bonim Mibifnim, tandis que les murs de l'enceinte du Beth Amikdash, on les construisait de l'intérieur, donc ces tentures étaient étendues à la limite extérieure de l'enceinte du Beth Amikdash. Amar Rabbi Yoshua, Shamati, j'ai entendu chez Makrivin, Afalpishen Bait, qu'on peut offrir des korbanot, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, Ochlin Kotche Kotchim, il est permis de consommer de la viande d'un sacrifice dont la sainteté est grande, comme la viande d'un korban khatat, Afalpishen Klaim, même s'il n'y a pas de tenture, c'est-à-dire même s'il n'y a plus les murs du Beth Amikdash. Kochim Kalim ou Maaser Sheni, il est permis de consommer de la viande d'un korban dont la sainteté est légère, comme la viande d'un korban shlamim et le Maaser Sheni dans la ville d'Yerushalayim, Afalpi Shen Choma, même s'il n'y a plus les murailles de la ville d'Yerushalayim. Et cela parce que Mipne Shekdusha Rishona Kitchal Shata, parce que la première sanctification qui a eu lieu au moment de la construction du premier Beth Amikdash a pris effet au moment de la sanctification de Kitchal Atid Lavo et a aussi sanctifié ces endroits pour le futur. Autrement dit, cette sanctification ne s'est pas annulée au moment de la destruction du Beth Amikdash. Donc selon lui, il n'était pas nécessaire d'étendre des tentures pour pouvoir offrir des sacrifices. Alors Lav Miklal de Rabbi Eliezer Savar, n'est-ce pas que nous pouvons déduire d'ici que Rabbi Eliezer lui pense Lo Kitchal Atid Lavo, que la première sanctification n'a pas sanctifié la ville d'Yerushalayim ni le Beth Amikdash pour le futur, et cette sanctification s'est donc annulée au moment de la destruction du Beth Amikdash, et c'est pour cela que selon lui, il a fallu étendre des tentures pour pouvoir offrir des sacrifices. Amarle, Ravina le Ravashi, Ravina dit Ravashi, Mimai, d'où sais-tu que c'est cela leur sujet de discussion? Dilma de Kule Alma, peut-être que tout le monde pense, soit Rabbi Eliezer, soit Rabbi Yoshua pense, Kdusha Rishona Kitcha le Shata, que la première sanctification de la ville d'Yerushalayim et de Beth Amikdash les a sanctifiés au moment où la sanctification a eu lieu, Bekitcha l'Atid Lavo, et cette sanctification a pris effet aussi pour le futur. Cette sanctification ne s'est donc pas annulée au moment de la destruction du Beth Amikdash. Umar Maïdeshami Aleh Kamar, et celui-ci a rapporté ce qu'il a entendu, Umar Maïdeshami Aleh Kamar, et l'autre a rapporté ce qu'il a entendu. Bekitema Klaim le Rabbi Eliezer Lamali, et si tu veux me poser la question, pourquoi est-ce que selon Rabbi Eliezer, il a fallu étendre des tentures, ce n'est pas pour permettre l'offrande des sacrifices, mais plutôt le tniuta be'alma, mais plutôt par pudeur, qu'on ne puisse pas voir l'offrande des sacrifices de l'extérieur. Et aussi, à l'emplacement du sanctuaire, les tentures ont été étendues pour ne pas que les travailleurs qui construisaient puissent voir à l'intérieur, puisqu'il est interdit de regarder l'intérieur du sanctuaire. Finalement, nous n'avons pas encore vu d'avis divergent selon lequel la première sanctification s'est annulée au moment de la destruction du Beth Amikdash. La Gemara dit, et là, Hanetanaï, plutôt la vie divergente a été enseignée par les Tanaïm suivants. Des Tania, parce qu'il a été enseigné dans une Braïta concernant les lois des villes fortifiées, pour lesquelles s'appliquent des lois spéciales. En effet, comme le Passouk le décrit dans Vaïkra Café, qu'en général, la vente d'une maison ou d'un terrain n'est jamais définitive, mais lorsque vient le Yovel, la 50e année, ils retournent à leur ancien propriétaire. Tandis que celui qui vend une maison qu'il possède dans une ville fortifiée, l'ancien propriétaire peut la racheter pendant les 12 premiers mois qui suivent la vente, mais au bout de 12 mois, cette vente devient définitive. Alors à ce sujet, la Mishnah dans Maseret Erchin Daf Lamed Bet Amud Alev dresse une liste de villes fortifiées. Alors la Braïta dit là-dessus, Amar Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, Lama Manu Chachamim Etelu, pourquoi est-ce que les Chachamim ont cité uniquement ces villes, tandis que nous savons qu'il y en avait beaucoup d'autres? Il répond, Shekshalu Bnei Hagola, lorsque les Bnei Israël sont retournés de l'exil, Matsu Elu, ils les ont retrouvés avec Kitchum et ils les ont à nouveau sanctifiés. Aval Rishonot, mais les premières qui existaient auparavant, Batlu, leur sanctification s'est annulée, Mishébatla Haaret, à partir du moment où l'habitation des Bnei Israël en Eretz Israël s'est annulée, autrement dit à partir du moment où ils sont partis en exil. Alma Kassavar, donc l'auteur de cette braïta pense, Kdusha Rishona Kitcha Leshata, la première sanctification a sanctifié la ville d'Yerushalayim et Eretz Israël au moment où la sanctification a eu lieu, Velo Kitcha Leatidlavo, mais cette sanctification n'a pas pris effet pour le futur. Cette sanctification s'est annulée au moment de la destruction du Beit HaMikdash, ce qui correspond à l'opinion de Rav Nachman. La Gemara demande, Veraminhi, on a opposé à cette braïta que nous venons de voir, une autre braïta qui dit, Amar Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, Vechi Elu Bilvad Hayu, est-ce que c'est uniquement ces villes mentionnées dans la Mishnah, dans Erchin Daf Lamed Bet, Amud Aleph, qui existaient? Vehalo Kvar Nehemar, pourtant, le pasouk dit clairement dans Dvarim Gimel, Shishim Ir Kol Hevel Argov, c'est Moshe Rabbeinu qui parle en disant, nous avons compris 60 villes, toute la région où se trouvaient les palais royaux, Mamlechet Og Babashan, ceci était le royaume de Og dans le Bashan. Le pasouk continue et dit, Kol Ele Arim Betsurot, tout ceci était des villes fortifiées, Chomag Voa, des hautes murailles, etc. En tout cas, nous voyons qu'il y avait beaucoup plus de villes fortifiées que ceux mentionnés par la Mishnah d'Orchin d'Aflamet Bet. Et là, donc finalement, Lama Manu Chachamim Etelou, pourquoi est-ce que les Chachamim nous mentionnaient que celle-là? Rabbi Ishmael répond, Shekshalou Bene Hagola, lorsque les Bnei Israël sont retournés de l'exil, Matsu Elou, ils les ont retrouvés, Vekitchum, et ils les ont sanctifiés. La Gemara demande, Kitchum Ashta, est-ce que c'est maintenant qu'ils les ont sanctifiés? Ha'amrina Nekaman, pourtant, nous disons plus loin dans cette même Braïta de l'Otzricha le Kidouché, qu'il n'est pas nécessaire de les sanctifier à nouveau. Et là, plutôt, c'est ainsi qu'il faut lire dans la Braïta. Matsu Elou, ils les ont retrouvés, Umanoum, et ils les ont comptés. C'est-à-dire, ils les ont mentionnés. Velo Elou Bilvad, et ce n'est pas seulement ces villes mentionnées par la Mishnah qui sont considérées comme étant des villes fortifiées. Et là, Kol Shetale Biadcha Masoret Meavotecha. Mais pour toute ville pour laquelle tu as une tradition de tes ancêtres, Shemukefet Roma Mimot Yoshua Binoun, qui était entourée du muraille au temps de Yoshua Binoun, Kol Mitzvot Elou Noagotba, toutes ces mitzvot que nous avons mentionnées plus haut s'appliqueront pour cette ville. Mipne Shekdusha Rishona Kitchal Shata, parce que la première sanctification a pris effet au moment où cette sanctification a eu lieu, lorsque les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, Vikitchal Atidlavo, et cette sanctification a pris effet aussi pour le futur. Elle ne s'est pas annulée lors de la destruction du Beit HaMikdash. Kashia de Rabbi Ishmael Berabi aussi, à de Rabbi Ishmael Berabi aussi. Nous avons une contradiction entre les différents enseignements de Rabbi Ishmael Berabi aussi. L'Agma répond, Iba Itema, soit je te dirai très Tanae Aliba de Rabbi Ishmael Berabi aussi, qu'il y a une discussion entre deux Tanaïm concernant l'opinion de Rabbi Ishmael Berabi aussi, à savoir si la première sanctification s'est annulée au moment de la destruction du Beit HaMikdash ou non. Iba Itema, soit je te dirai, Chada Minayhu, Rabbi Lazar Berabi aussi Amra, que l'une de ces braïtot a été enseignée non pas par Rabbi Ishmael Berabi aussi, mais plutôt par Rabbi Lazar Berabi aussi de Tania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta, Rabbi Lazar Berabi aussi Omer. Lorsque le pasouk dans Vaikra Café parle des lois concernant les villes fortifiées, le pasouk dit Asher Lochoma, qui a une muraille. En fait, le terme de l'eau est écrit d'une manière spéciale. En effet, ce mot s'écrit Lamedvav Aleph. Alors, Lamedvav exprime une affirmation, tandis que Lamed Aleph exprime une négation. Rabbi Lazar Berabi aussi interprète, lorsque le pasouk s'exprime ainsi, c'est pour dire Afalpi Shenu Arshav, même si maintenant il ne possède pas de muraille, Vahaya Lor Kodem Lachen, mais il possédait avant une muraille. Nous considérons cette ville comme étant une ville fortifiée, et les lois de la ville fortifiée s'appliqueront pour elle aussi. Nous voyons donc que selon l'opinion de Rabbi Lazar Berabi aussi, la première sanctification ne s'est pas annulée au moment de la destruction du Beit HaMikdash, donc comme la seconde braïta que nous avons mentionnée. Celle-ci a été enseignée donc par Rabbi Lazar Berabi aussi.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Tet Zayin Amud Bet. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Nitma Ba'azara, s'il est devenu impur dans l'enceinte du Beit HaMikdash, Venelma Mimenu Tuma, et il a oublié qu'il était impur. Alors la Mishnah continue et dit, et il s'est prosterné, ou il est resté le temps de se prosterner, ou il est sorti par le chemin le plus long, il aura l'obligation d'offrir un korban selon sa situation financière. La Gemara demande Tuma Ba'azara Menalan, d'où sait-on qu'il est interdit de rester dans l'enceinte du Beit HaMikdash si cette personne est devenue impure dans l'enceinte du Beit HaMikdash, alors que les psukim dans Bamidbar He, qui enseignent l'interdiction de pénétrer dans le Beit HaMikdash tout en étant impur, ne parlent que de celui qui est devenu impur à l'extérieur du Beit HaMikdash et puis il y est rentré, et non pas de celui qui est devenu impur à l'intérieur du Beth Amikdash. D'où s'étend donc l'interdiction de rester dans le Beth Amikdash si on est devenu impur à l'intérieur du Beth Amikdash. La Gemara répond à Amar Rabbi Elazar, Katuv Echad Omer, il y a un pasouk qui dit dans Bamidbar Yutet concernant la sanction du retranchement dans le monde futur appliquée pour celui qui a transgressé l'interdiction de pénétrer dans le Beth Amikdash tout en étant impur. Le pasouk dit Et Mishkan Hashem Timé, il a rendu impur la résidence d'Hashem. Vekatuv Echad Omer, il y a un deuxième pasouk qui dit, toujours dans le même paragraphe, Ki Et Mikdash Hashem Timé, car il a rendu impur le sanctuaire d'Hashem. Cette répétition est superflue. Alors, Imeno Inyan le Tumash Bachut, si ce pasouk n'est pas nécessaire pour nous enseigner l'interdiction et la sanction appliquée pour celui qui est devenu impur à l'extérieur du Beth Amikdash, Tenehu Inyan le Tumash Bifnim, applique-le au sujet de la personne qui est devenue impure à l'intérieur du Beth Amikdash. Il aura donc l'interdiction d'y rester, et s'il y reste, il sera sanctionné par le retranchement dans le monde futur. La Gemara demande, est-ce que ces psukim sont superflus? Pourtant, nous les avons besoin tous les deux, d'Etania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta, Rabbi Lazar Omer, Imne Mar Mishkan. Si le pasouk emploie le terme de Mishkan, Lamane Mar Mikdash, pourquoi est-ce que le pasouk a répété cette même interdiction concernant le Mikdash? Imne Mar Mikdash, Lamane Mar Mishkan. Et si le pasouk a mentionné le terme de Mikdash, pourquoi a-t-il répété à nouveau le même pasouk en employant le terme de Mishkan? Il répond, il ou Neymar Mishkan, velo Neymar Mikdash. Si le pasouk avait uniquement mentionné le Mishkan, il n'avait pas mentionné le Mikdash. Haïti Omer, j'aurais dit, al Mishkan yehechayav, il sera sanctionné par le retranchement dans le monde futur s'il pénètre dans le Mishkan qui a été construit dans le désert, Shehare, Mashuach, Beshemel Amishra, parce que celui-ci a été oint avec l'huile d'onction. Sa sainteté serait donc plus grande. Va'al Mikdash, lo yechayav, mais il ne serait pas sanctionné par le retranchement dans le monde futur pour avoir pénétré dans le Beth Amikdash, parce que celui-ci n'a pas été oint avec l'huile d'onction. Sa sainteté serait donc considérée comme étant plus légère. De Imneimar Mikdash, et si le pasouk avait uniquement mentionné le Mikdash, velo Neimar Mishkan, mais n'avait pas mentionné le Mishkan, Haïti Omer, j'aurais dit, al Mikdash yechayav, il sera sanctionné par le retranchement dans le monde futur pour avoir pénétré dans le Beth Amikdash tout en étant impur, Shehare Gdushato Gdushatolam, parce que sa sainteté est une sainteté pour toujours permanente. En effet, avant la construction du Beth Amikdash, il était permis d'ériger un autel privé lorsqu'il n'y avait pas de Mishkan, mais après la construction du Beth Amikdash, il a été interdit définitivement d'ériger un autel privé. Nous voyons donc que cette sainteté du Beth Amikdash existe pour toujours. Sa sainteté serait donc considérée comme étant plus grande, Ve'al Mishkan lo yechayav, mais pour avoir pénétré dans le Mishkan qui a été construit dans le désert, tout en étant impur, il ne serait pas sanctionné par le retranchement dans le monde futur, parce que sa sainteté n'est pas une sainteté permanente. En effet, après la destruction du Mishkan, il a été permis d'ériger un autel privé. Sa sainteté serait donc considérée comme étant une sainteté plus légère. Il serait possible de dire qu'il ne serait pas sanctionné par le retranchement dans le monde futur pour y avoir pénétré tout en étant impur. Le kach ne'emar Mishkan, c'est pour cela que le pasouk emploie le terme de Mishkan pour désigner le Mishkan qui a été construit dans le désert. Le kach ne'emar Mikdash, et c'est pour cela que le pasouk emploie le terme de Mikdash qui désigne le Beth Amikdash. Pour nous dire que la peine du retranchement dans le monde futur s'applique soit pour celui qui pénètre tout en étant impur dans le Beth Amikdash, soit pour celui qui pénètre dans le Mishkan tout en étant impur. Donc finalement, ces psukim ne sont pas en trop. Ragma répond, Rabbi Lazar, Hari Kakashale. C'est cela la question que s'est posée Rabbi Lazar pour déduire que l'interdiction s'applique aussi pour celui qui est devenu impur à l'intérieur du Beth Amikdash. Mirde Mishkan Ikre Mikdash, puisque nous savons que le Mishkan est aussi appelé Mikdash, ou Mikdash Ikre Mishkan, et le Beth Amikdash est aussi appelé Mishkan, comme nous le verrons par la suite. Nichtov Oidi Veidi Mikdash, le pasouk n'avait qu'à s'exprimer dans les deux psukim en employant le terme de Mikdash, ou bien il n'avait qu'à s'exprimer dans les deux psukim en employant le terme de Mishkan. Mishkan ou Mikdash Lamali, pourquoi est-ce que le pasouk a changé les termes qu'il a employés, et une fois il a employé le terme de Mishkan et une fois le terme de Mikdash? Shma Mina Tarte, nous pouvons déduire de là deux choses. La premièrement, que la peine du retranchement dans le monde futur s'applique soit pour celui qui pénètre tout en étant impur dans le Beth Amikdash, soit pour celui qui pénètre tout en étant impur dans le Mishkan, et aussi que cette peine s'applique aussi pour celui qui est devenu impur à l'intérieur du Beth Amikdash et il n'est pas sorti immédiatement. Alors la Gemara demande, Bishlama Migdash Ikre Mishkan. On comprend bien encore que le Beit HaMikdash a été appelé Mishkan d'Irtiv, parce que le Pasuk dit dans Vaikra Kavav, il s'agit des bénédictions qui s'appliqueront dans le futur lorsque les Bnei Israël arriveront en Eretz Israël. Le Pasuk dit, Benatati Mishkani Betochechem, et je mettrai ma résidence parmi vous. Ce Pasuk fait allusion au Beit HaMikdash. Nous voyons que le Beit HaMikdash est appelé Mishkan. Et là, Mishkan de Ikre Mikdash Menalan, mais d'où sait-on que le Mishkan a été appelé aussi Mikdash? Il est mamilirtiv, si tu veux dire que c'est du pasouk dans Bamidbar Yud qui dit Venasu Hakeatim no Seamikdash. Et les Lévi'im de la famille de Kehat qui portaient le sanctuaire commenceront leur voyage. De là, nous verrions donc que le Mishkan est appelé Mikdash. Ce n'est pas vrai parce que Hahu Be'aron Ktiv, ce pasouk parle du Aaron. En effet, les Lévi'im de la famille de Kehat portaient les ustensiles sacrés comme le Aaron à Kodesh et les autres ustensiles et non pas le Mishkan lui-même. Ragma répond, et la Me'acha, plutôt, c'est d'ici que nous l'apprenons. Dans Shemot Café, le Pasuk dit, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Et ils feront pour moi un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Uktiv, et le Pasuk dit par la suite, que Chol Asher Ani Mareotra et Tavnita Mishkan, etc. Comme tout ce que je te montre, le modèle du Mishkan, vous le ferez. Nous voyons que le Pasuk qui a parlé auparavant de Mikdash, parlait en fait du Mishkan que les Bnei Israël construiront dans le désert. Nous voyons donc d'ici que le Mishkan était appelé Mikdash. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Vehishtachava, O Shaha Kede Ishtachava, s'il s'est prosterné ou bien il est resté dans le Beit HaMikdash le temps de se prosterner, donc il n'est pas sorti immédiatement, il a transgressé cette interdiction de rester dans le Beit HaMikdash tout en étant impur, il devra offrir un Korban Khatat selon sa situation financière. Amar Rava, Lo Shanu, nous disons cela, Elash Ishtachava Klapipnim, c'est uniquement s'il s'est prosterné en direction de l'intérieur, donc en direction du sanctuaire, que s'il s'est prosterné, même sans passer de temps, il a transgressé l'interdiction, mais s'il s'est prosterné en direction de l'extérieur, en direction de la sortie, Shaha'in, s'il est resté dans le Beit HaMikdash le temps de se prosterner, oui, il a transgressé l'interdiction, il aura l'obligation d'offrir un korban khatat, lo shaha lo, mais s'il n'est pas resté le temps de se prosterner, non, il n'a pas transgressé l'interdiction. Il y a une deuxième version qui rapporte cet enseignement de Rava sur le deuxième cas de la Mishnah. Ou bien s'il est resté le temps de se prosterner. Nous pouvons déduire de là que se prosterner prend du temps et c'est uniquement s'il a pris ce temps qu'il a transgressé l'interdiction. Amar Rava, Rava dit là-dessus, nous disons cela que le fait de se prosterner prend du temps. Et sans cela, il n'a pas transgressé l'interdiction. C'est uniquement s'il s'est prosterné en direction de l'extérieur, donc de la sortie, parce que ceci n'est pas considéré comme étant une prosternation. En effet, le fait de se prosterner ne se fait qu'en direction de l'intérieur du sanctuaire. Aval klapepnim, mais s'il s'est prosterné en direction de l'intérieur, donc du sanctuaire, afalgav de l'oshaa, même s'il n'a pas pris de temps, quand même, il a transgressé l'interdiction parce qu'il s'est prosterné correctement. Et ceci est donc suffisant pour avoir transgressé l'interdiction. Be'achi ka'amar, et c'est cela que la Mishnah a voulu dire. Ishtachava klapepnim, s'il s'est prosterné en direction de l'intérieur, o sheshaha kede ishtachava, ou bien s'il est resté dans le Beit HaMikdash le temps de se prosterner, be'ach ishtachava de klapechutz, dans le cas où il s'est prosterné en direction de l'extérieur, donc de la sortie, chayav, il sera coupable. Il a donc transgressé l'interdiction d'être resté dans le Beit HaMikdash tout en étant impur. Il aura l'obligation d'offrir un korban, khatat. La Gemara demande, Hechi dami hishtachava adidba sheiya. Comment se présente le cas d'une prosternation qui prend du temps? Vehechi dami hishtachava adidba sheiya. Et comment se présente le cas d'une prosternation qui n'a pas pris de temps? La Gemara répond, Deletba sheiya. La prosternation qui ne prend pas de temps. Zu kriya be'almahi. C'est le cas où il s'est simplement agenouillé. De Idba Sheiya, la prosternation qui prend du temps, Pishut Yadaim Viraglaim, c'est le cas d'une personne qui se prosterne en se couchant entièrement par terre et en étendant ses mains et ses pieds. La Gemara demande, Vekama Sheiyur Sheiya, et quelle est la mesure de temps que prend cette prosternation? La Gemara répond, Pligeba Rabbi Yitzhak Bar Nachmani Vechad Deime. Il y a une discussion entre Rabbi Yitzhak Bar Nachmani et un des sages qui est habituellement avec lui, Umano, et de qui il s'agit, Rabbi Shimon ben Pazi. Vamrela, il y a une deuxième version qui dit, Rabbi Shimon ben Pazi vechad deime, c'est Rabbi Shimon ben Pazi, et un des sages qui habituellement se trouvait avec lui, Umano, et de qui s'agit-il, Rabbi Yitzhak bar Nachmani. Vamrela, Il y a une troisième version qui dit Rav Shmuel Bar Nachmani. C'est Rav Shmuel Bar Nachmani qui se trouvait habituellement avec Rabbi Shimon Ben Pazi. Chadamar Kimimre Dehaï Psuka. L'un dit que c'est le temps de dire le pasuk qui suit, Vechadamar, et l'autre dit Kemi Vayich Reu Le Sefa. À partir du terme de Vayich Reu dans le pasuk qui suit, jusqu'à la fin du pasuk. Il s'agit du pasuk dans Divrei Hayamim Bet Perek Zayin, concernant l'inauguration du premier Bet Hamikdash, Vechol Bnei Israël Roim Beredet Hashem. Et tous les Bnei Israël ont vu lorsque le feu est descendu du ciel, Uchvod Hashem Alabait, et lorsque l'honneur d'Hashem est descendu sur la maison, donc sur le Bet Hamikdash, Vayichreu Apaim Arza Al Haritzpa, et ils se sont agenouillés face à terre sur le parterre, Vayishtachavu, et ils se sont prosternés, Vehodot Hashem, remerciant Hashem Kitov, qui est bon, Kilolam Chasdo, car sa bonté existera toujours. Tanoura Banan, nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta, Kida, lorsque le Pasuk parle de s'incliner à la Paim, c'est-à-dire s'incliner face à terre, Vechen Womer, et ainsi le Pasuk dit dans Melachim Aleph Perek Aleph, Vatikod Batsheva Apaim Eretz, et Batsheva s'inclina devant le roi David Ameler, face à terre, voir le Tosfot, Kriya, lorsque le Pasuk parle de s'agenouiller, Albirkaim, c'est-à-dire se baisser sur les genoux, Vechen Womer, et ainsi le Pasuk dit dans Melachim Aleph Perek Het, lorsque Shlomo Ameler a terminé sa prière au moment de l'inauguration du Bet Hamikdash, il s'est levé, Mikroa Albirkav, de s'être agenouillé sur les genoux. Hishtachava'a, lorsque le pasuk parle de se prosterner, Zupishut Yadayim Veraglaim, c'est-à-dire se prosterner de manière à s'étendre entièrement par terre en étendant ses mains et ses pieds, Vechen Omer, et ainsi le pasuk dit dans Bereshit Lamedzaïn, c'est Yaakov Avinu qui s'adresse à Yosef, son fils, Havonavo Ani Veimcha Vachecha, Lishtachavot Lecha Arza, est-ce que nous viendrons, moi, ta mère et tes frères, se prosterner devant toi à terre? Nous voyons donc de ce pasouk que le terme de Ishtachava veut dire s'étendre entièrement par terre. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Shvot Daf Tetzain. Nous commençons le shiur de Maseret Shvot Daf Yudzain. Nous commençons Daf Tetzain Amudbet à la deuxième ligne du bas de la page. Nous avons vu jusqu'à présent que celui qui devient impur lorsqu'il se trouve dans le Bet Hamikdash et il n'est pas sorti immédiatement, il a transgressé l'interdiction de rester tout en étant impur dans le Bet Hamikdash et il devra offrir un korban selon sa situation financière s'il a transgressé cette interdiction par inadvertance. S'il est resté volontairement, il mérite la peine du retranchement dans le monde futur. Cependant, s'il a été averti par des témoins auparavant, comme la Gemara le dit dans Makot Davkaf Gimel, il lui sera infligé une peine de flagellation qui le dispensera de cette peine du retranchement dans le monde futur. Alors la Gemara dit là-dessus, Ba'e Rava, Rava s'est posé la question suivante, Tzarir Shehiya le Malkut, est-ce que cette personne qui est restée volontairement dans le Bet Hamikdash alors qu'il est devenu impur, doit-il rester le temps d'une prosternation pour qu'il lui soit infligé la peine de flagellation? O'en Tzarir Shehiya le Malkut, ou bien nous disons qu'il ne doit même pas rester le temps d'une prosternation pour qu'il lui soit infligé la peine de la flagellation. Alors la Gemara précise, le korban gmire shehiya, c'est uniquement pour l'obligation d'offrir un korban que nous apprenons qu'il doit rester le temps d'une prosternation pour qu'il ait l'obligation d'offrir ce korban. Le malkut lo gmire shehiya, mais pour infliger la peine de flagellation, les chachamim n'ont pas appris qu'il doit rester le temps d'une prosternation pour que cette peine lui soit infligée.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.